communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté.
Est-ce que le fait de voir de l'antisémitisme partout, c'est ce qui n'est pas comme crier au loup, vous voyez ? C'est-à-dire que plus personne se retourne. Et même, je me demande si le fait que je vous pose la question, vous n'êtes pas en train de vous demander si ça n'est pas une question antisémite.
Je ne vois pas l'antisémitisme partout. Il y a un chapitre sur 440 pages consacré, en effet, au néo-antisémitisme. Il y en a un, c'est 20 pages, où j'essaie d'expliquer, en effet, qu'il y a un nouvel antisémitisme aujourd'hui qui n'est pas l'antisémitisme catholique d'autrefois, qui n'est pas l'antisémitisme anticapitaliste d'autrefois aussi, qui n'est pas l'antisémitisme raciste des hitlériens, mais qui obéit à une mécanique nouvelle que j'essaye d'identifier conceptuellement. Mais c'est le seul.
Mais vous dites après, aussi que quand on est anti-américain, quelque part, on va se nicher un peu d'antisémitisme, comme quand on est anti-capitaliste. Vous y pas, voyez un
pas,
peu d'antisémitisme.
Non, c'est pas moi qui le dis, mon cher Frédéric Taddeï, c'est le président iranien Ahmadinejad.
Mais Ahmadinejad n'étant pas un représentant de ce que vous appelez la gauche, de toute façon, ni même de la gauche néo-progressiste.
Bien entendu,
donc,
non.
Ce n'est pas lui dont je parlais, évidemment.
Mais c'est
hein.
Oui, bon, mais moi, c'est de ceux qui, par exemple, sont indulgents vis-à-vis d'Ahmadinejad que je parle. Ou bien un autre exemple.
Au nom de l'anti-impérialisme.
Autre exemple. Mohamed Atta, l'homme qui conduisait l'avion qui s'est encastré dans les tours jumelles.
Ce n'est pas la gauche néo-progressiste non plus. Lui.
Bien entendu. Mais c'est un terroriste sur lequel une partie de la gauche néo-progressiste se pose des questions qu'à mon avis, on devrait se dispenser de poser. Une partie de la gauche néo-progressiste
s'immole avec des livres de Karl Marx.
Voilà, donc ça c'était un collage mixage que nous a préparé Raphaël, puisqu'on reçoit Daniel Ben Saïd. Alors pour une actualité éditoriale relativement chargée, le premier, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est un livre publié avec Alain Krivine, c'est 1968, Suite et fin aux éditions La Brèche, et c'est une série d'articles
fin
qui...
Et suite.
Fin et suite, plein. C'est pourtant, c'était pas difficile. J'avais une chance sur deux. Donc, fin et suite, c'est donc une collection d'articles qui ont été écrits au fur et à mesure des commémorations décennales de mai 68. L'autre, c'est un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy. Ça, c'est le volume 2 de Fragments mécréants publié aux éditions Ligne. Et puis, alors là, c'est un livre où vous montrez un peu plus vos muscles de philosophe, Éloge d'une politique profane. Et ça, c'est aux éditions Albin Michel. Mais tout de suite, Raphaël, on va peut-être évoquer le premier d'entre eux, un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy, qui vient de paraître.
Bah oui, voilà, donc c'est un livre qui parle un petit peu en réponse en fait au livre de BHL qui était intitulé « Ce grand cadavre à la renverse ». Alors on a entendu en introduction un petit module sonore avec quelques extraits du parcours politique de BHL. Alors évidemment, il a fallu rajouter un peu de musique et quelques coups de ciseaux parce que sinon c'était assez creux. Vous, Daniel Bessaïd, vous parlez d'un vide abyssal et ce module sonore a pu en témoigner. Alors il dit lui-même donc qu'il n'a pas été très actif en mai 68 et... cette absence dans la rue au moment de ces événements qui étaient quand même relativement importants ne sont pas plus étonnants que ça parce que ça fait écho à l'une de ses déclarations où il dit, je cite, « Je suis un peu sourd à la question sociale ». On a pu entendre ensuite ces petits écarts politiques puisque, enfin, notamment, il avait soutenu Ronald Reagan. Ensuite, bien sûr, ces démons et ces nouveaux combats et donc effectivement avoir un petit peu d'antisémitisme partout. Et c'est là que vous intervenez, Daniel Ben Saïd, puisque nous sommes devenus la cible en fait et nous sommes dans sa ligne de mire. Et là, du coup, vous écrivez ce livre en réponse au livre de Bernard-Henri Lévy. Et pour vous, j'ai l'impression que c'est du petit lait, c'est l'occasion d'un pamphlet acide dans lequel vous vous amusez beaucoup et qui est l'occasion d'une nouvelle critique de ce qu'on pourrait appeler la social-démocratie. Alors, BHL dénonce dans ce livre les écarts et quasiment donc les péchés d'un certain type de personnes. Il parle de peu de gens ou de gens de peu. Sept péchés capitaux, donc relativement... relativement lourd, hein, puisqu'on y retrouve l'antilibéralisme, évidemment, l'anti-américanisme, le fascislamisme, la tentation totalitaire, le culte de l'histoire, pour finir avec l'antisionisme. Alors, pour commencer, bah, peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu sur l'échiquier politique, un petit peu, puisque lui, pour exister, pour faire exister ses idées creuses, mais quand même, il lui faut essayer de torpiller une autre gauche qui serait plus la vôtre. Et pour commencer un petit peu, pourquoi les frontières gauche-droite qu'on entendait habituellement auparavant se sont aujourd'hui estompées à ce point, avec des frontières un peu floues, et du coup, de gauche, finalement, celle dont lui se revendique et la vôtre?
Oui, ben, effectivement, c'est un pamphlet et Bernard-Henri Lévy est un prétexte là-dedans. Bon, il n'a pas manqué de copains pour me reprocher de consacrer du temps. En fait, je crois que ce qui m'a intéressé, c'est une vertu pédagogique, effectivement, puisque dans le vide post-victoire de Sarkozy, finalement, Bernard-Henri Lévy s'est fait une gloire d'avoir résisté aux sirènes et aux tentations. En commençant par expliquer dans son bouquin qu'il avait été sollicité par téléphone par le président pour le soutenir et signer un texte à la suite de celui de Glucksmann, etc. Bon, alors ceci dit, donc, il a une posture qui est de se présenter comme l'intellectuel qui reste à la gauche, mais à la gauche, Ségolène Royal. Et ce qui frappe, c'est que... En fait, il n'y a aucun projet. La position de gauche consiste à disqualifier, avec les sept péchés capitaux que vous évoquez, la possibilité d'une autre gauche. Alors pourquoi aujourd'hui la frontière est aussi floue et les transfuges aussi nombreux entre la gauche respectueuse et la droite? Bon, c'est assez évident, hein, c'est qu'ils ont coopéré... dans l'alternance à démanteler ce qui existait d'espace public, d'état redistributif, de code du travail, de sorte que, par exemple, je ne considère pas que, même s'il a pu en surprendre certains, le passage de Strauss-Kahn, parti gauchir le FMI, ou de Kouchner dans le gouvernement, soit des trahisons ou du débauchage, comme l'a dit François Hollande. Ils font au service de Sarkozy ce qu'ils auraient pu faire avec autant de zèle et aussi bien au service de Ségolène Royal. Il y a une plage de convergence. Et d'ailleurs, ces traversées d'une frontière qui est devenue extrêmement poreuse se sont répétées aux élections municipales dans de multiples cas. Bon, voilà. Alors par rapport à ça, je crois que Bernard-Henri Lévy n'a pas grand-chose à dire, et pas plus que le Parti socialiste lui-même sur son projet, puisque pour le moment, c'est assez énigmatique. Donc... La raison d'être, c'est de montrer en revanche que une autre gauche qui pointerait son nez est chargée dès la naissance de tous les péchés capitaux. C'était une raison. Bon, certains sont dérisoires, anti-américanisme. Bon, je ne me suis jamais senti particulièrement anti-américain. On revoit, anniversaire 68 aidant, les manifestations contre le Pentagone et la guerre du Vietnam. Il y a toujours eu leur Amérique et la nôtre, hier comme aujourd'hui. Un mouvement contre la guerre en Irak. Il y a des mouvements syndicaux dans l'hôtellerie ou dans les pizzas, machin. Bon, voilà. Et puis... Bon, notre Amérique, c'est celle des martyrs de Chicago ou des IWW, etc., et du syndicalisme radical américain. Donc il n'y a pas d'anti-américanisme. Et d'ailleurs, plus profondément, je crois que c'est pour ça que les mots ont quand même une certaine importance. Parler d'impérialisme, c'est une catégorie politique. Ça ne désigne pas un peuple, mais un phénomène politique qui n'est pas proprement américain, parce qu'il y a un impérialisme européen et un impérialisme français. Ça évite tout chauvinisme. Alors... L'autre point important, c'est effectivement ce que vous avez évoqué par l'introduction sonore, c'est que ce qui est insupportable maintenant, c'est la façon dont s'est imposé, comme une quasi-évidence, l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Et on a presque honte d'avoir à se justifier d'une accusation qui, vu l'histoire, apparaît comme la plus infamante et la plus disqualifiante. Alors ça, c'est un travail... C'est une des raisons, sûrement, pour laquelle ça m'a pas pris énormément de temps, mais quand même, bon, il y avait quand même un coup de colère derrière. C'est que c'est pas seulement Bernard-Henri Lévy. C'est qu'on a eu trois livres en deux mois à la rentrée, celui d'Éric Marty contre Alain Badiou, celui qui est passé plus inaperçu, mais qui, à mon avis, est le plus pervers, de Danny Trom, qui est un sociologue de bonne réputation et qui plus est publié aux éditions du CERF. Là aussi, une maison réputée sérieuse. Bon, et dont le titre est « La promesse et l'obstacle, la gauche radicale et l'antisémitisme ». Bon, ça fait beaucoup comme offensive. Et alors, bon, l'affaire est quand même dérisoire parce que c'est évoqué d'ailleurs par le petit entretien qu'on a entendu entre Dominique Taddei et Bernard-Henri Lévy. Il y a une formule curieuse dans le bouquin de Bernard-Henri Lévy qui est de dire « l'anti-américanisme est la forme actuelle de l'antisémitisme ». Bon, ça m'a fait sourciller, sursauter un peu. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quand même assez étrange. Voilà des gens, que ce soit Bernard-Henri Lévy, Alexandre Adler et les autres, qui, quand on dit la politique d'Israël, pas les Juifs, mais la politique de l'État d'Israël, est la pointe avancée de l'impérialisme au Moyen-Orient, est directement l'instrument de la politique internationale, bon, qui crie, mais enfin, c'est un scandale, c'est de la calomnie. Mais quand on étudie leur rhétorique, tout tend à confirmer le fait qu'ils ne défendent Israël que comme pointe avancée et rempart de l'Occident. Alexandre Adler écrit en toute tranquillité que la véritable frontière des États-Unis se trouve aujourd'hui sur le Jourdain. Finkielkraut dit que la véritable capitale, ou plutôt le véritable monument mémorial du génocide des Juifs, c'est la Statue de la Liberté. Autrement dit, symboliquement et métaphoriquement, Israël et les États-Unis sont complètement identifiables. Alors j'ai un étudiant en ce moment en thèse qui étudie d'un yeshiva à Jérusalem et qui a fait une thèse qui se tiendra au printemps, qui est accablante parce que lui, qui est attaché à la singularité de la culture juive, de la mystique de manière non religieuse, etc., est complètement scandalisé par justement cette négation de la singularité historique par l'identification totale avec les valeurs occidentales et d'Israël, simplement une pièce du puzzle occidental. Bon, alors tout ça est quand même, me paraît grave, c'est symptomatique d'une opération qui transforme des conflits politiques en conflits religieux et confessionnels. Si on regarde entre la première et la deuxième intifada, une question qui est une question politique, territoriale, d'occupation, de droit d'un peuple à disposer de lui-même, etc., se transforme pour certaines des parties de part et d'autre en guerre de religion, et pas seulement parce que le Hamas a gagné les élections. Mais on peut citer, je les cite d'ailleurs dans le bouquin, des déclarations de ministres israéliens ou Zilando, à l'époque ministre de l'Intérieur, disant qu'ils souhaitaient avoir le Hamas comme interlocuteur, parce que ça au moins, c'était clair et ça rendait le conflit insoluble. Bon, il n'est pas le seul à avoir dit et pensé ça, et d'autres le pensent encore, évidemment, et plus nombreux qu'on le croit. Donc voilà, et puis derrière ça, il y a toute une opération philosophique de Jean-Claude Milner, de Benny Lévy avant son décès, etc., qui remet en scène le thème des racines, des origines et la mythologie du peuple élu, tout simplement. Et là, on est dans une dérive qui n'est pas sans rapport avec notre actualité, d'ailleurs, parce que dès qu'on met le doigt dans la généalogie, les origines et les racines, le test ADN n'est plus très loin. Hein. C'est la légitimité par la filiation et le droit du sang. Donc tout ça me paraît très grave. Bon, alors on peut le traiter sur un ton badin. C'est vrai que je me suis diverti à certains égards. Mais les enjeux derrière, en revanche, me paraissent sérieux.
Non, mais sur ce... Alors si on revient sur cette question qui est effectivement assez troublante, et tu évoques un certain nombre de livres qui sont parus, mais on voit bien que ça déborde d'une actualité éditoriale un petit peu confidentiel quand même. Enfin, je veux dire, c'est sur les ondes, c'est à la télé, c'est... Enfin, oui. Y a une omniprésence de cette question qui, en gros, rend la solidarité avec le peuple palestinien suspecte, quoi.
Non, mais bien sûr. D'abord, il y a une... Enfin, ça, c'est effectivement l'aspect intellectuel de la chose. Bon, professionnellement, j'y suis sensible, mais la campagne d'intimidation, elle existe, qui joue sur la culpabilité... ou la mauvaise conscience européenne, etc., qui joue... Je sais que si j'avais pas le nom que j'ai, je sais que je m'exposerais à beaucoup plus de désagréments. Hein. Si je m'appelais Dupont ou Martin, je dis pas que le nom est un bouclier absolu, mais ça me permet quand même d'envoyer sur les roses et de pas être complexé là-dessus. Je pense que une des choses qui me révolte, là, au-delà du débat intellectuel, c'est que j'ai de nombreux membres de ma famille qui sont pas revenus des camps, Et je suis indigné qu'on puisse prétendre les utiliser, parler au nom du malheur juif en général pour justifier la politique israélienne aujourd'hui par rapport aux Palestiniens. C'est absolument révoltant. Bon, ça c'est subjectif, disons. Mais les campagnes d'intimidation, Daniel Mermet, bon, pour son omission sur France Inter, a eu 3 procès en antisémitisme. Le Avocat sans frontières, sur lequel a mis la main un certain William Goldnadel, s'est spécialisé dans les procès qui sont du harcèlement judiciaire. Il les perd tous, pratiquement. Il avait failli gagner celui contre Edgar Morin, ce qui était quand même assez gratiné, mais il les perd tous. Mais l'important, c'est que les procès aient lieu. Parce que s'il y a un entrefilé dans la presse disant « Monsieur Machin a né à son 3e procès pour antisémitisme », même s'il y aura un entrefilé pour dire « Il l'a gagné », bon, ça reste stigmatisant. Et puis, c'est une pression sur les directeurs de chaîne, sur les producteurs d'émissions, etc., etc. Donc, il y a un phénomène d'autocensure qui s'ensuit et qui est tout à fait important. Sans parler même, à la limite, ça aboutit à des menaces. Le cinéaste Eyal Sivan a été, lui, physiquement menacé. Bon, voilà. D'où, je crois qu'il y a effectivement derrière... un enjeu, parce qu'en fait, ce discours aujourd'hui de... On peut dire, finalement, en Israël, ce qu'on ne peut pas dire à Paris. A été publié dans la petite collection de la Fabrique un livre d'Itzhak Lahor, qui est journaliste à Haaretz, donc quand même un des principaux journaux israéliens, sur le philosémitisme européen, et qui dit exactement ça. C'est qu'en fait... cette campagne philosémite est une campagne aujourd'hui qui s'inscrit dans la guerre ou le conflit des civilisations, dans la nouvelle guerre de religion, etc. Et donc qui est une opération politique. Point.
Alors ce processus que tu décris sur la question, sur qui accumule et qui confond antisionisme, antisémitisme. On voit aussi qu'à l'échelle plus large, il est fait avec l'Iran, Hugo Chavez, Cuba, enfin, qu'on a en face de les attaques sur l'extrême gauche ont tendance à tout confondre, à tout mêler. Et si on avait un peu de sympathie pour Chavez, c'est qu'on défend Ahmadinejad, etc., etc.
Oui, ben, enfin, c'est peut-être bon signe, hein, d'ailleurs. C'est peut-être le signe d'une inquiétude. Donc, il faut trouver aujourd'hui des nouveaux démons. Alors, on va trouver... Bon, j'ajoute juste un mot avant de passer à Chavez sur ce qui est quand même un des très communs des livres que j'évoquais. Bon, mais ce n'est pas seulement dans le registre intellectuel. C'est que les Palestiniens n'existent pas dans ces livres-là. Il n'y a que le monopole du malheur juif et de son héritage. Mais il n'y a pas un mot... Et on a l'impression que tout ça est un monologue dans le prolongement de l'idée que la Palestine était une terre sans peuple offerte à un peuple sans terre, qui est le mythe fondateur du sionisme. Mais il n'y a ni Palestiniens ni droit des Palestiniens. Il y a un autisme, le mur peut-être le favorise, mais qui est important. Alors après, sur le fait de criminaliser en chaîne, ben là, il faut faire de la politique concrète. Chavez... alors, il y a des choses... Je pense qu'on peut défendre l'expérience vénézuélienne tout en ayant un œil ouvert et critique éventuellement sur ses contradictions et ses limites. Bon, le défendre quand j'ai entendu dire qu'il y avait en cours une nationalisation des banques ou la reprise de souveraineté sur les ressources et les hydrocarbures et l'énergie ou sur les plans sociaux, bon, et d'une dynamique alternative ou même la création de la Banque du Sud pour essayer de créer une alternative bolivarienne, c'est-à-dire en partenariat avec la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua et Cuba... au projet de grand marché des Amériques, bon, ben ça, on peut être sympathisé et soutenir, parce qu'il y a quand même eu 2 tentatives de coup d'État contre Chavez, hein, déjà. Donc, soutenir ça et en même temps penser que ce soutien-là n'implique pas d'être inconditionnel de Chavez quand il raconte des bêtises sur l'Iran, Ahmadinejad ou sur la Biélorussie. Bon, voilà. Alors après, il y a des campagnes d'amalgame sur les élections et le référendum qu'il a perdu, par ailleurs. Bon, là, il y a eu une campagne comme quoi c'était le goulag et la dictature. Bon, j'étais personnellement en désaccord sur le référendum et la possibilité ouverte à prolonger les mandats et la réélectivité présidentielle. Enfin, bon, c'est ce qui existe en France. Hein. Bon, non, mais c'est tout simplement ce qui existe en France. Bon, alors, je suis contre en France, donc je suis contre au Venezuela. Mais la campagne a été quand même assez délirante là-dessus. L'impression que c'était la marche sur Rome ou l'incendie du Reichstag. Faut quand même pas déconner, quoi. Bon, voilà. Maintenant, bon. Je reviens au point de départ. Je crois que dans cette espèce d'amalgame, il y a une inquiétude. On a vu aussi pour la première fois à l'automne des journaux comme El País enfourcher aussi, comme ça a été fait en France autour du bouquin de Machauvert, la campagne de démystification. Démythification, pourquoi pas, mais y compris de noircissement de la figure de Guevara. C'est simplement... on lui dénie finalement tout sens politique pour en faire un psychotique suicidaire. Bon, et pour mettre la psychologie au premier plan, bon, c'est un type qui était suicidaire, il a entraîné d'autres dans son aventure. Non, si on regardait les textes et le contexte de l'époque, bon, c'était peut-être désespéré, mais c'était une politique qui avait un sens. Voilà, mais il y a eu une véritable campagne là aussi. Donc tout ça fait partie d'un climat, effectivement. Enfin, bon, ça prouve aussi qu'il y a du répondant, que s'il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y aurait pas. C'est comme le discours de Sarkozy, on y viendra peut-être sur 68. Il est très insolite. Pourquoi 40 ans après tant de haine et tant d'acharnement? Bon, il faut bien que ça relève, il faut conjurer un spectre. C'est un discours d'exorciste ou expiatoire dont le modèle, c'est le discours versaillais. Il faut dresser le Sacré-Cœur pour l'expiation de la Commune, ou le discours pétainiste. L'étrange défaite et le déclin français, c'est la faute au Front populaire. Et puis là, maintenant, le chômage et les difficultés de la France, c'est le péché originel de 68. Bon, ben donc, quand on a tout ça comme discours, qu'on prenne la question Israël-Palestine, qu'on prenne l'Amérique latine ou qu'on prenne les discours de Sarkozy, ce sont des discours de la peur, en réalité.
Alors, vous rejoignez un petit peu le président Mao qui disait que la preuve que nos positions sont justes, c'est que l'ennemi nous attaque.
Elles sont pas nécessairement justes. La preuve, en tout cas, que quelque chose bouge, c'est que l'ennemi s'inquiète.
Juste, on évoquait mai 68, on reviendra, on peut en dire deux mots sur ces... On va peut-être pas faire trop long, mais sur ces commémorations successives où on a l'impression que tous les 10 ans, il faut remettre 100 francs dans la machine. Et là, c'est un contexte un petit peu particulier cette année, puisque les anciens combattants de mai 68 commencent à être vraiment anciens. Et pourtant, on voit, on a revu ce que vous évoquez, l'attaque de Sarkozy sur mai 68. On a l'impression que c'est une espèce de bataille gagnée d'avance, quoi. C'était très, très étrange qu'il y ait autant de lumière sur ces événements-là 40 ans après.
Alors, bon, d'une part, bon, on a enterré le dernier poilu. On va commencer le compte à rebours des derniers 68 arts maintenant. Mais oui, bon, ce petit bouquin, c'est pour ça que ça ressuscite les éditions La Brèche. Il s'est décidé... là aussi, c'est un coup de colère. Hein. C'est un coup de colère quand j'ai vu l'émission de Marie Drucker en janvier... sur la 3, qui était un truc hallucinant quand même. Un bon tiers sur l'évolution des uniformes de la police. La grève générale, c'est certes important, c'est la prise de la Bastille à l'ORTF, mais en fait, c'est le prétexte pour mettre en scène et interviewer le tonton Drucker comme grand combattant de 68. Bon, tout ça était ridicule. Bon, alors, c'est un coup de colère tardif, d'où une édition militante. Voilà. Mais que je regrette pas depuis. Alors effectivement, c'était pas une solution de facilité. Effectivement, c'était commode de prendre des textes sans les modifier qui ont été écrits de 10 ans en 10 ans. En 78, la gauche venait de perdre les élections législatives qu'elle semblait devoir gagner en 77, et ça refermait la séquence 68, qui, pas seulement en France, mais je crois qu'avec le tournant portugais de 75, la transition en Espagne, etc. Bon, et 68 devenait un objet d'histoire, commençait à devenir. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à avoir des bouquins sérieux avec du recul, etc., mais commençait à devenir. 88, c'est un anniversaire que je considère comme la grande célébration narcissique de 68 par ses bénéficiaires et ses vainqueurs. C'est la génération 68 devenue génération Mitterrand. Ça tombe un mois après la réélection pour le deuxième mandat de Mitterrand. Et là, on a 68, c'est finalement le creuset de la modernisation mitterrandienne. En 98, le mur de Berlin est tombé, on est dans un autre contexte, et là, on commence à dire, mais enfin, ce qui est important en 68, ce n'est pas la grève générale, la France d'ailleurs, ça c'est un truc hexagonal franco-français. L'important, c'était la révolution de velours, c'était le printemps de Prague qui annonçait les révolutions de velours à l'Est, bon, ce qui était très important, hein, les événements de Prague ou de Pologne en 68. Mais donc, il y a une réécriture en permanence en fonction du contexte, des enjeux, etc., qu'il est intéressant de voir évoluer. Et puis là, maintenant, on a Sarkozy qui appelait à la liquidation générale, et c'est totalement raté. Sans accorder plus de crédit qu'il ne mérite au sondage du Nouvel Observateur la semaine dernière, mais qu'a voulu faire Sarkozy ? C'est jouer sur la peur, conjurer le spectre, évoquer les voitures brûlées, comme après elles ont brûlé en 2005 dans les banlieues, etc., etc. C'est agiter le spectre 68. Et aujourd'hui, devant un sondage, 75%, ce qui n'est pas quand même courant, des gens interrogés, alors quel est l'échantillon, etc., disent avoir une image positive de 68. Et 77% disent qu'ils se situent du côté des grévistes et des étudiants. Bon, alors, évidemment, hein, derrière toute réponse aussi globale, il y a un agrégat de motivation qui peut aller. Ceux qui disent c'est la libération sexuelle, c'est le droit à l'avortement, même si c'est arrivé 8 ans après. C'est vrai qu'il y a un rapport, etc. Ou pour des travailleurs qui disent il y a quand même eu des acquis sociaux qu'on essaie de nous reprendre. Mais tout ça agrégé fait que c'est une référence positive. Et je ne dis pas que ça va se répéter, mais on le voit y compris dans les manifs de lycéens aujourd'hui. Bon, alors, donc l'opération Sarkozy de discrédit est ratée. Mais pourquoi je ne regrette pas d'avoir fait le petit bouquin ? C'est que je n'avais pas lu, il n'était pas sorti, le bouquin de Cohn-Bendit, Forget 68. Bon.
Alors, vous avez des lectures sympas, parce qu'entre ceux de BHL, ceux de Cohn-Bendit.
Mais moi, je lis mes adversaires et attentivement. Alors, oublier 68, oui, d'une certaine manière. Il répète 68, c'est fini. Mais alors, bon. On dit c'est fini, mais les mêmes qui disent c'est fini continuent à en faire quand même commerce abondamment. Donc c'est pas si fini que ça, d'une certaine manière. Et bon, enfin, on pourrait en discuter, mais surtout ce qui là m'indigne, et je trouve carrément indécent, c'est l'ouverture presque de son bouquin, c'est 68 c'est fini parce que culturellement on a gagné. Non, de dire, comment on peut dire aujourd'hui ? Alors culturellement, bon, peut-être, mais. Si on entend par là qu'il y a eu une libération des mœurs, des individus, un épanouissement plus grand de l'individu, encore qu'avec des résultats aujourd'hui contradictoires, etc. Mais pour arriver à ça en Suède, il n'y a pas eu besoin de 68. Ce n'est pas ça la singularité de 68. Il y a là une évolution qui est passée par des luttes, de mouvements des femmes, de mouvements homosexuels, etc., qui sont très importantes. Mais ce n'est pas la singularité de 68. En revanche, socialement, on a perdu. Enfin, on se retrouve 40 ans après 68 avec 7 millions de travailleurs pauvres, près de 3 millions de chômeurs, davantage de repas au Resto du Cœur d'année en année, des travailleurs sans toit, etc. Bon, je trouve que c'est réellement indécent de dire, voilà, c'est un discours de parvenu. C'est un discours de parvenu. Et c'est malheureusement la dominante. C'est de dire, bon, 68, c'est quoi ? Effectivement, vous citiez tout à l'heure les bouquins qui commencent à sortir, heureusement. Mais la dominante dans les commémorations, y compris dans les bouts de films, c'est le spectaculaire du Quartier Latin. Je ne vais pas le renier, j'en étais... Enfin, ce n'est pas ça le point important, quand même. Le vrai problème, c'est la discussion politique. 8-10 millions, alors il y a des discussions sur les chiffres de grévistes pour la grève la plus longue de l'histoire, qui est à la charnière du 20e et du 21e siècle. Il y a l'ancien mouvement ouvrier, mais il y a l'ORTF, il y a les folies bergères, il y a des terrains de foot occupés, etc. Bon, il y a une nouveauté réelle. Bon, mais quelle était la stratégie pour ça ? Il y a un débat aujourd'hui, par exemple, avec le Parti communiste. Fait un débat la semaine dernière au Café du Croissant avec Pierre Zarka. Eux disent, ouais, mais parti parce qu'il était engoncé dans ses rigidités bureaucratiques, n'a pas été disponible ou attentif à la nouveauté. Ouais, mais ce n'est pas le seul problème. C'est un vrai problème de stratégie politique. Est-ce que oui ou non, autre chose était possible ? Pas tout, mais autre chose. Il y a eu 3 journées cruciales pendant lesquelles il était possible de renverser effectivement le gouvernement gaulliste et d'avoir un gouvernement de gauche pas du tout révolutionnaire. Bon. Mais arrivant au pouvoir par la grève générale, ce n'est pas le même contexte que 81, après la récession, etc. Et les conséquences sur le contexte européen n'étaient pas les mêmes par rapport à ce qui se passait en Tchécoslovaquie, par rapport à ce qui allait se passer les années suivantes en Italie. Alors on ne réécrit pas l'histoire. Mais il y a un moment où il y a des possibilités à saisir par les cheveux. Bon, et ça, c'est la discussion politique qui n'existe pas aujourd'hui. Bon, on feuillette un album d'images, mais bon, quelle leçon on tire en termes politiques d'un événement qui est un événement qui reste un événement majeur.
Partie de la gauche néo-progressiste
s'immole avec des livres de Karl Marx.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et on reçoit aujourd'hui Daniel Ben Saïd et Raphaël. On évoquait son livre sur BHL. Qui sert de prétexte.
Voilà, qui sert de prétexte. Et du coup, pour continuer, vous disiez tout à l'heure que BHL dénonçait, stigmatisait l'extrême gauche actuelle sans énoncer un projet politique précis. Vous, du coup, vous profitez de ce livre pour redéfinir certaines positions politiques. Et du coup, c'est peut-être l'occasion d'évoquer un peu ça, et ça nous lancera sur les livres suivants. L'extrême gauche, aujourd'hui, elle en est où ? C'est-à-dire, on ne se reconnaît pas dans... l'espèce de caricature qu'on fait BHL. Et comment elle vit aujourd'hui, comment elle peut espérer justement dépasser ce carcan-là et proposer de nouveau.
Ça dépend d'abord des luttes qui se mènent. Mais enfin, si on regarde la séquence telle qu'elle s'est développée après. Bon, ça ne résout pas les problèmes difficiles qui sont devant nous, mais si on regarde la séquence depuis les grèves de 1995, les grèves de 2003, le non-référendum, les luttes des banlieues, le CPE ou les mouvements en cours, même s'ils n'ont pas gagné sur la loi Pécresse ou sur les retraites, et je crois que ça a quelque chose à voir avec 68, je dis pas en ligne directe, mais quelque chose à voir. Il y a eu une capacité de résistance, pas totale, on a beaucoup perdu, mais de résistance à la contre-réforme libérale, un peu meilleure que dans des pays voisins, ce qui explique aujourd'hui que Sarkozy doit mettre les bochers doubles pour mettre à peu près la situation française du point de vue du droit social à la norme libérale européenne et mondiale. Bon, alors, par rapport à ça, donc il y a une épreuve de force engagée et pour laquelle je crois là encore qu'il y a eu un peu de panique sur Sarkozy. On en prend pour 10 ans, pour 20 ans, etc. Je ne dis pas qu'il va tomber tout de suite, mais la crise de domination et d'hégémonie côté classe dominante n'est pas résolue pour autant. Les retournements d'opinion, vu la crise économique, ont été plus rapides même que ce qu'on pouvait penser. Donc, et dans ce contexte-là où les résistances, même si elles ne remportent pas de victoires spectaculaires, existent, le problème, c'est d'exprimer un projet alternatif à une gauche recentrée, une gauche du centre, ou alors une gauche de droite, comme ose le dire Francis Marmande. Bon, c'est tout le problème qui nous a été posé au moment de l'élection présidentielle et qui reste posé aujourd'hui. Mais on voit bien que se confirme, même sur le terrain électoral, qui n'est pas le terrain le plus favorable, et même sur un des pires d'entre eux, qui sont les élections municipales, parce que jouent les clientèles locales, les personnalités locales, etc., qu'il y a des... Je ne vais pas plaider pour ma paroisse, mais interpréter les signes. Pour moi, un des signes les plus importants, je pense que pas grand monde l'aura remarqué, et je comprends pourquoi, mais disons que la Ligue a présenté 200 listes en coalition variable avec des militants ou des sections locales du PC, avec des écologistes de la décroissance à Lyon, etc. Bon. La plupart de ces listes, les deux tiers ont fait plus de 5% dans des élections qui sont difficiles. 30 ont fait plus de 10%. Mais ce qui m'intéresse, c'est le second tour. Là où ces 30 listes ont fait plus de 10%, elles ont été maintenues au second tour, au risque de faire perdre la gauche. On dit, puisque vous n'avez pas voulu, y compris une coalition en indépendance, etc., normalement, on pouvait penser que les gens émettent un vote de conviction au premier tour et du moindre mal au second. Or, non seulement ces listes à Clermont-Ferrand ont augmenté de 13 à 15%, à Saint-Nazaire de 12 à 17%, et dans des villes comme Foix-Louviers, elles ont perdu sur... Elles sont passées de 11 à 10 ou 9%. Donc, c'est pas généralisable. C'est simplement un indice. Mais d'une cristallisation, d'une vraie dissidence politique par rapport au PS. Et oui, BHL propose pas de programme en positif, ni d'idées très importantes en positif pour le PS. En revanche, il se fait le porte-parole d'une opération politique, qui est la coalition au centre, qui est la version française, finalement, de ce qui s'est passé en Italie avec la création du Parti démocrate de Walter Veltroni. Autrement dit, un nouveau centre. Alors, toute la question était de savoir qui en serait la locomotive. Je crois que Bayrou, aujourd'hui, dans les choux pour un moment, il va être condamné à chanter des chants béarnais pendant 4 ans sur la dernière marche de l'Assemblée nationale avec ses 3 collègues. Bon, d'où le PS à la main aujourd'hui pour mais ça sera la même chose. Ça sera ou Ségolène ou Strauss-Kahn ou un autre. Mais enfin, qui va, en gros, de même que Sarkozy veut aligner le pays sur la norme sociale libérale européenne, eh bien, ce qui est en cours et à l'ordre du jour, c'est l'alignement du PS ou le parachèvement de l'alignement du PS sur le New Labour, sur le Parti démocratique italien, etc. Bon, alors, ou bien on est capable de développer une alternative à ça. Et ben là, c'est une discussion qui va au-delà, j'imagine, de notre entretien. Mais c'est effectivement l'ordre du jour.
Oui, en parlant d'ordre du jour, il y a aussi un deuxième bouquin que vous faites paraître et qui est un peu justement dans la continuité de ce que vous venez d'exprimer, puisque s'il y a vraiment une dissidence par rapport au Parti Socialiste au sein de LCR et de l'extrême-gauche, il y a aussi de grosses questions que vous laissez entendre à travers ce livre, « Éloge de la politique profane », où justement vous faites un peu un panorama des différentes alternatives altermondialistes, critique par rapport à la globalisation dans le champ politique issu de Porto Alegre, du Chiapas et compagnie, et vous en tirez quand même un panorama quand même assez sévère sur justement le manque de perspectives qui selon vous offre justement ces luttes spécifiques, on va dire, pour amener un projet de société.
Oui, alors il y a un peu une cartographie des dans ce bouquin, enfin, en tout cas c'est un des chapitres importants, des différents modes de résistance et des positions politiques existantes, notamment dans la nébuleuse qu'on appelle le mouvement altermondialiste, qui se réunit dans les forums sociaux de Porto Alegre, de Nairobi ou d'ailleurs, mais qui, bon, en fait, c'est au-delà, c'est une mouvance, une nébuleuse, ça n'a rien de péjoratif de le dire dans ces termes-là. Alors, Mon interprétation, c'est que nous avons vécu ou nous vivons encore, c'est d'ailleurs toute la question, ce que j'appelle un moment utopique, et ce n'est pas du tout péjoratif, comme il en existe après les grandes défaites. Bon, les comparaisons ont toujours leurs limites, mais si on regarde les années de la Restauration en France, et plus généralement d'ailleurs en Europe, après la Révolution française, les années 1820-1830, les débuts des années 1840, après une grosse défaite, sont des années de fermentation utopique. C'est les années où on a les Saint-Simoniens, Cabet, Licari, Proudhon, Pierre Leroux. C'est une vraie fermentation. Je crois que, après quand même la grande défaite des politiques d'émancipation du XXe siècle, parce que pour moi c'est une grande défaite finalement, bon, dont il faut apprendre quelque chose, mais c'est quand même une défaite. La Renaissance était plus rapide même que ce qu'on pouvait craindre. À partir, on date symboliquement du soulèvement zapatiste du 1er janvier 1994, et très vite le surgissement du mouvement altermondialiste dès les manifestations de Seattle ou le premier forum de Porto Alegre en 2001. Bon, mais alors qu'est-ce que... Oui, c'est peut-être sévère, vous dites, le tour d'horizon que j'en fais, mais c'est de dire... C'est pas du tout de négliger tout ce qu'il y a dedans de germes, d'expériences positives dont il faut tirer quelque chose. Mais pour tirer quelque chose, il faut aller au-delà du moment de la résistance ou au-delà d'une certaine résignation ou impuissance en faisant finalement de nécessité vertu, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui changer le monde, disons qu'il faut ou pas le changer, ou puisqu'on ne peut pas prendre le pouvoir, disant que le pouvoir n'existe pas et qu'on est ailleurs. Non, on voit très bien au Venezuela qu'il y aura une épreuve de force. On voit très bien que c'est d'abord que les apatistes construisent une forme de pouvoir, on peut appeler ça autrement, mais enfin les juntes de bon gouvernement dans les municipalités du Chiapas, c'est une forme d'administration et de pouvoir, faut pas raconter d'histoire. Donc le vrai problème aujourd'hui, comment s'articule ce moment utopique qui est un moment de reconstruction, de réflexion, d'expérimentation, comment il peut redéboucher sur des projets politiques. Après le moment utopique des années 30, il y a eu les révolutions de 48. Je crois qu'on est à ce moment charnière-là. Alors ça ne veut pas dire que le mouvement altermondialiste, y compris dans sa forme organisée, a fait son temps. Je pense qu'il a encore de grosses potentialités, qu'il n'a pas épuisé ses effets sur le plan notamment de son internationalisation, etc. Mais parce que les questions politiques reviennent à l'ordre du jour, il faut au moins regarder en face le fait que se confrontent dans ce mouvement-là des projets politiques très différents, voire opposés. Si le prochain a lieu, je crois ce qui est prévu d'ailleurs en Amazonie, au Brésil, à Belém, supposons qu'il y ait Lula et Chavez et Evo Morales, ce n'est pas les mêmes projets politiques. Bon, il ne faut pas exclure ni épurer, mais il ne faut en revanche pas que ces différences de projets soit étouffé par un consensus mou. Il faut que ça s'exprime. Bon, et finalement, les forums ont servi, et ça, ils peuvent continuer à le faire, à lancer la campagne contre la guerre et les manifs de, anti-guerre de 2003, du 15 février 2003, des campagnes sur la dette, etc. Mais, mais même en Europe. Hein,
Bah oui, précisément. C'est qu'au-delà des sommets de Porto Alegre, ce que vous pointez quand même, si j'ai bien lu votre livre, c'est que les débouchés auxquels se confrontent les différents courants féministes, écologistes, radicaux, tous les types de luttes, même locales, que c'est l'absence de volonté de s'emparer de la politique au sens traditionnel pour pouvoir poser la question de ce qui les fédère quand même malgré tout autour de leur lutte, c'est-à-dire la question du capital, du capitalisme, de la société globalisée telle qu'on l'affronte tous les jours. Et cette perspective-là, vous assistez d'une certaine façon pour dire qu'elle a besoin de continuer à avoir des perspectives qui soient coordonnées et qui pourraient prendre encore la forme au moins d'un parti, mais au moins des perspectives qui conduiraient à coordonner en quelque sorte le front commun qui manque encore à ces luttes.
Pour moi, le cas sur lequel on peut raisonner très concrètement et qui d'ailleurs nous a fait réfléchir, c'est le cas de l'Italie où on a eu un mouvement de lutte sociale, je crois que c'était 2002, le Forum social de Florence, où il y avait en même temps des luttes à la Fiat, avec l'Angleterre, le plus gros mouvement anti-guerre d'Europe, etc. Refondation communiste a joué un rôle important dans ces mouvements-là. Et 3 ans après, se retrouve dans le gouvernement Prodi à voter l'envoi des troupes en Afghanistan, la réforme des retraites. Et si le gouvernement n'était pas tombé, probablement la ratification du traité de Lisbonne, c'est-à-dire la nouvelle mouture du traité constitutionnel. Alors comment ce grand écart est possible ? Donc nous, notre problème, c'est justement de le réduire, parce que sinon on est condamné à avoir des luttes sociales importantes pour faire pression, qui gagnent, mais qui, dans la plupart des cas, n'aboutissent pas. Et après, quand on se reporte sur le terrain électoral, une politique du moindre mal est finalement subalterne à des personnages qui sont, oui, des libéraux un peu teintés de social, dans le meilleur des cas, comme Prodi. Donc comment briser le cercle vicieux ? Alors il faut déjà commencer par tordre le cou au discours selon lequel le social, c'est sain et pur, et la politique est salissante. Bon, dire non, il faut établir une cohérence. Chacun a sa fonction. L'un et l'autre peuvent se nourrir et s'entretenir l'un l'autre. C'est pas simple, mais le faire. Autour, évidemment, d'un projet politique. Pour moi, le fil conducteur évident, je reprends, c'est... on ne sait pas ce que seront les changements sociaux, et même pour employer les mots, appeler un chat les révolutions du XXIe siècle, quelle forme elles prendront. En revanche, on sait qu'une révolution, c'est un changement du rapport social, et notamment du rapport de propriété. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement entreprise publique ou service public, mais c'est les débats sur la propriété intellectuelle, sur les droits communs, sur les biens communs de l'humanité, etc. C'est un fil conducteur à partir duquel il peut y avoir des compromis. Ce n'est pas tout ou rien, mais en tout cas des compromis qui rapprochent du but et pas qui en éloignent. Et quand Bertinotti est président de l'Assemblée nationale en Italie et Refondation participe au gouvernement Prodi, c'est un compromis qui crée la confusion et qui ne rapproche pas du but. C'est ce qu'on ne voulait pas à aucun prix dans l'hypothèse d'une victoire de Ségolène Royal. Alors pour ça, pour porter un programme et un projet, moi j'en reste au fait qu'il faut une organisation collective, parce que la politique, c'est des rapports de force. Alors parti, le mot peut choquer, parce que les partis évoquent bureaucratie, professionnalisme de la politique, etc. Bon, peu importe, ça peut s'appeler mouvement, ça peut s'appeler organisation, ça peut s'appeler front. Mais en fait, c'est une organisation, et c'est important comme efficacité, mais aussi d'un point de vue démocratique. On vit dans une société où les rapports, ne serait-ce que financiers, sont extrêmement inégaux. Regardez le financement des partis. Où la puissance des médias est énorme, y compris la capacité de cooptation des porte-paroles qui ne portent que leurs paroles, etc., et qui n'ont de compte à rendre à personne. Donc il faut une organisation dans laquelle un collectif se donne les moyens de rester maître de son indépendance, de sa parole, etc. Alors aujourd'hui, il y a des moyens démocratiques, ce n'est pas les partis du début du XXe siècle, mais le problème est posé, encore une fois.
D'accord. Mais alors, par rapport à tout cela, qu'est-ce que vous faites, justement, vous faites, enfin, il y a plusieurs chapitres, mais qu'est-ce que vous faites de toutes les réflexions autour des questions de la multitude, de la plèbe, des sans-voix et tout ça, où il y a toute une réflexion théorique, on va dire, dans la mouvance de la gauche, qui essaye justement de construire un nouveau projet politique, d'une certaine façon, à partir d'une nouvelle optique qui considérerait plus la classe ouvrière comme la nouvelle réponse, la nouvelle panacée au projet politique communiste, mais au contraire, irait tourner vers les rhizomes et autres...
Ça, c'est un vaste débat, on n'en aura probablement pas le temps, mais bon, je vais essayer d'être bref et de dire... La montée en puissance du terme de plèbe, bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'origine, mais quand même, si, ça vient en partie de Foucault. Et si je pense que le terme là est particulièrement malheureux, parce que la plèbe, c'est aussi la plèbe de l'Empire, c'est le pain et les jeux, hein, le RMI et les jeux télévisés. Et chez Foucault, ça a une conséquence politique. Ce n'est pas uniquement un problème théorique ou de choix de mots. Bon, on pourrait s'entendre, après tout, il n'y a pas de... Mais je pense que ça a joué un rôle dans sa perception de la révolution iranienne, qui est la fusion directe, sans médiation politique, sans parti, ce qui lui semblait d'ailleurs le plus important de la révolution iranienne, entre la plèbe et la spiritualité religieuse, comme modèle des révolutions du XXIe siècle. J'exagère pas, hein, le dossier des textes de Foucault et de Rodinson est ressorti en anglais récemment. Bon, j'aime bien Foucault, mais sur ce point-là, a posteriori, c'est accablant. Le débat sur la multitude est plus compliqué parce que... Et d'abord, il dépend des auteurs. C'est Negri, Virneau ne donnent pas exactement la même interprétation. Ils ne l'opposent pas, d'ailleurs, au terme de classe, mais plutôt au terme de peuple, qui, pour eux, représente l'homogénéité, etc. Bon, personnellement, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Descriptivement, ça ne me déplaît pas, parce que c'est vrai que si on regarde qu'est-ce que sont la population en lutte en Bolivie sur la banlieue de La Paz à El Alto, on ne peut pas dire que c'est les mineurs aujourd'hui. Donc C'est cette population exploitée, opprimée, enfoncée, des cracheurs de feu, des vendeurs de chiclettes ou de cigarettes à l'unité sur les trottoirs, etc. On peut dire, bon, on va dire ouvrier. En plus, en français, ouvrier, c'est connoté très fortement. C'est le bleu de travail. C'est même pas le travailleur dans le vocabulaire anglais ou allemand. Arbeiter ou worker n'a pas la même... c'est pas aussi restrictif que l'est en France l'image de l'ouvrier, qui est ouvrier. C'est plus large. Donc, on peut. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas céder là-dessus, que parler en termes de classe, voire de peuple, garde un sens politique. Et si on renonce... D'abord, il faut savoir si ça correspond à des réalités. Pour moi, la lutte de classe, ben, c'est l'UMM et le MoDem. Personne ne doute que la bourgeoisie existe encore. Donc, il a bien existé son contraire quelque part. Appelons-le ça comme on veut. Moi, je préfère parler de lutte de classe. Alors, je le répète, dans le bouquin, ça me tient à cœur. Hannah Arendt disait que le nazisme a triomphé quand les classes se sont pulvérisées en masse. Ou Benjamin dit que l'Allemagne était le pays où on ne pouvait plus appeler le prolétariat par son nom. Ben, appeler les choses par leur nom, ça fait partie de la construction d'une conscience. Donc oui, bon, y a pas, je ne vois pas pourquoi ça serait ringard. Bon, par ailleurs, ce n'est pas une querelle de mots. Mais si on renonce à ces notions qui sont des notions politiques, qui ont une histoire, la notion de peuple, elle est née au XVIIe siècle, justement, parallèlement à la notion de citoyen. Et le peuple, c'est quand il y a des citoyens et plus seulement des sujets. Bon, donc, bon, il ne faut pas rester scotché à ça, mais je pense que ça avait un sens et que céder sur les mots, quand c'est pour les remplacer par quelque chose de plus flou... Eh bien, on ne veut pas des peuples, on ne veut pas des classes. On aura les ethnies, les communautés religieuses. Et voilà, on aura des communautés de remplacement qui ne sont pas celles qu'on veut construire, parce que ce n'est pas les mêmes réflexes de solidarité. L'intérêt, à mon avis, de penser en termes de classe, c'est que d'un point de vue de classe, il y a toujours de l'autre côté de la frontière, derrière l'autre clocher, un autre soi-même. C'est pas, on peut toujours traverser, trouver des ponts de solidarité, de communauté d'intérêt. Voilà, aujourd'hui, entre les travailleurs de Renault-Cléon et les travailleurs de Dacia en Roumanie, c'est pas... Bon, on peut avoir, d'un point de vue, là encore, de ce point de vue-là, quelque chose de transversal où on se sent plus proche, qui est mon cas, de militants palestiniens que du porte-parole du CRIF en France. C'est pas parce que mes origines me condamneraient à être solidaire d'une communauté religieuse ou ethnique. Bon, moi, je crois que c'est une vraie bataille idéologique qui a son importance.
Mais alors, c'est quoi la visée des gens comme Negri, par exemple, lorsqu'ils parlent de multitude et qu'ils s'attachent à justement rechercher ou à chercher dans justement cette nouvelle mouvance qui n'est plus seulement la classe ouvrière, la solution possible.
Non, mais pour moi, l'importance que Negri donne à la notion de multitude, ce qui justifie, disons, que ce soit un objet de discussion, voire de polémique.
Parce que aujourd'hui, c'est très répandu dans le mouvement intermondialiste.
Oui, parce que je pense que ça fonctionne bien. Ouais. C'est une image qui colle à la réalité, mais comme image.
Et aussi,
maintenant, si on veut penser en termes politiques plus rigoureux, c'est un autre problème. Et pour moi, le problème n'est pas le mot en soi. Bon, je peux l'utiliser à tel ou tel moment. Mais comment il fait système avec une pensée politique? Alors, pour Negri, l'idée, c'est quand même que la mondialisation, de toute façon... Et c'est ce qui explique sa position pour le oui au référendum. Ça a surpris certains qui pensent « Comment quelqu'un de radical comme Negri ?» Mais non, il pense que tout ce qui est ouvert va dans le bon sens. L'Europe, même si elle est libérale, c'est mieux que les nations qui, de toute façon, sont résiduelles. La mondialisation... Et tout ça aboutit presque mécaniquement à une espèce de face-à-face que je considère, moi, comme un théâtre d'ombre entre l'Empire... qui n'a plus de territoire, qui est le capital globalisé, et la multitude, qui est aussi la multitude. Bon, voilà, on a le round final, mais entre deux abstractions, à mon avis. Les médiations politiques existent encore. Comment, en Amérique latine, on s'appuie, après tout, sur les rapports de force spécifiques au Venezuela et en Bolivie, pas pour s'y enfermer, mais pour essayer de construire autre chose. Bon, pour moi, l'enjeu, il est là, et ça aboutit à une sorte, d'ailleurs, d'optimisme, et je dirais même bizarrement de déterminisme technologique chez Negri, où finalement la mondialisation plus Internet, dans l'interview qu'il a fait l'été dernier au Monde, c'est nous sommes déjà des hommes nouveaux. Bon, non, malheureusement, on est des hommes exploités, opprimés, aliénés, avec nos faiblesses, nos mesquineries, etc. Et c'est pas des péchés individuels, c'est que les rapports sociaux font ça aussi. Donc moi, je pense une divergence politique. L'affaire de la multitude est un élément de ça. Mais ça pourrait ne pas être. Mais là, il y a une pensée cohérente. C'est avec ça que je suis en désaccord.
Oui, il y a ce désaccord-là. Il y a aussi un aspect assez lancinant aussi à travers l'ouvrage. C'est la question aussi du fétichisme, le cercle vicieux du fétichisme, le procès du capital, la reproduction sociale.
Ça, c'est le prochain bouquin.
C'est le prochain bouquin.
Non,
ça revient souvent. Et la question que je me posais, en fait, quand je voyais ça revenir régulièrement, c'était par rapport au projet politique que vous défendez. Comment vous articulez justement cette nécessité quand même de se confronter justement...
Moi, ce qui m'attire l'attention, et en relisant, puisque 68 force à relire des vieux textes, le Debord de la Société du Spectacle, le Marcus de l'Homme Unidimensionnel, qui n'a pas joué le rôle qu'on
le Lukács
dit. Oui, mais surtout cela, parce que on avait déjà l'idée chez Marcus, la domination est absolue. Alors, il cherchait des solutions, comment sortir de cette domination absolue. Debord, il y avait des contradictions avant 68, mais plus ça se ferme après, plus dans les commentaires sur la Société du Spectacle. Et aujourd'hui, on a toute une série de discours qui... On est dans le fétichisme, la réification absolue. Baudrillard, quelqu'un que j'aime bien, Michel Suria, qui est en plus mon éditeur à ligne, etc. C'est le discours. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui s'y résignent, mais ça veut dire que si la domination est absolue, s'il n'y a plus d'issue, si le cercle vicieux est définitivement bouclé, on peut prendre des postures de résistance qui sont héroïques, esthétiques, etc., mais qui sont des postures de témoignage. Or, moi, la manière dont je fais de la politique, c'est qu'il faut s'installer dans la contradiction. Il y a des contradictions vivantes, travailler de l'intérieur. Et c'est pour ça que la politique, ce n'est pas le domaine de la pureté. On agit sur des rapports de force, dans des contradictions, avec des gens qui sont tels qu'ils sont, avec leurs souffrances, leurs problèmes, leurs illusions, etc. Et on essaie de partir de là. Ce n'est pas simple. Mais si on veut produire des effets réels, je reste convaincu que ça... Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui de briser le cercle vicieux? C'est la question que posait Marcuse en 64. Bon, on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas fait. Bon, il faut parier que c'est possible. Et après, dire... Et il faut pour ça un projet. Il y a des pratiques de rupture. Certains ont même reproché finalement cette espèce de pessimisme à Bourdieu. Si la reproduction est absolue et si l'habitus, on n'échappe pas à son habitus, bon, il a écrit la domination masculine, pas l'émancipation féminine. Bon, Et Passeron avait déjà dit, mais non, bon, il y a quand même dans les pratiques sociales, justement, quelque chose qui bouge et des points d'achoppement et de rupture. Je parle, y compris en extrapolant, du premier Bourdieu. Mais aujourd'hui, le biopouvoir, si on dit, alors vous avez parlé tout à l'heure de Navigo, c'est vrai que c'est inquiétant. Si on dit le biopouvoir est partout, on aboutit aux positions d'Agamben, etc., où on va dire, ben alors, s'inscrire à la sécurité sociale, c'est avoir un matricule, ça participe du biopouvoir et du contrôle social. Oui, dans une certaine mesure, mais c'est aussi un acquis social. Voilà encore une contradiction. Donc c'est faire vivre ces contradictions-là et pas s'en extraire en sauvant son âme. C'est possible, c'est respectable, y compris. Hein. J'ai aucun dédain pour ça. Mais se dire, bon, rentrer, c'est au contraire dire, et voilà, et parier sur le fait que ce soit possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends que la question se pose, parce que la lutte apparaît beaucoup plus inégale qu'elle ne l'était au début du XXe siècle. À tout point de vue, y compris militaire.
Alors, inégal mais pas désespéré, en tout cas, c'est ce que vous nous dites. On arrive au bout de cette émission.
C'est Sarkozy qui dit, hein, ceux qui n'ont pas de religion ne peuvent être que désespérés. Ou du moins, on ne peut avoir de l'espoir que si on a une religion.
Oui.
Ce qui est supposé que les mécréants sont désespérés, je ne le suis pas.
Voilà, alors c'est entre autres un des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir, c'est toute une partie des choses que vous écrivez sur la religion et nos rapports à la religion. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. On va juste rappeler les bouquins qui nous ont servi à préparer cette émission. Donc toutes les questions compliquées que vous n'avez pas compris, c'est Guillaume qui les a posées après avoir lu Éloge de la politique profane. Ça c'est publié chez Albin Michel dans la collection Bibliothèque des idées et ça coûte 22 €. Et puis il y avait aussi deux autres essais un peu plus pamphlets et puis dont en particulier un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy, dont une espèce de méchanceté de assez jubilatoire à le lire quoi. Donc ça c'est publié donc chez votre ami des éditions Ligne, ça coûte 12 €. C'est d'ailleurs une maison d'édition qui publie beaucoup de choses intéressantes. En ce moment, ils sont un peu au cœur du débat. C'est eux qui ils publient Brossa, ils publient enfin tout un tas de
Badiou
d'un télo. Badiou, on ne cite plus son nom à l'antenne depuis qu'il ne vient plus à nos émissions.
Ah bon.
Et voilà, il y a ça. Et puis donc La Brèche, les éditions de La Brèche qui ressuscitaient pour publier 1968, fin et suite, une série de textes que vous aviez écrits soit seul, soit avec Alain Crévy. Depuis 20 ans, 30 ans, 20
30
ans maintenant.
Ans, 30, ans.
30 ans. Voilà. Donc, Daniel Ben Saïd, merci beaucoup de votre venue.
De l'hospitalité.
Approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, il y a des émissions politiques à saisir par les cheveux et ce soir c'était donc Les Oreilles Loin du Front avec autour des boutons, autour des micros, il y avait celui qui rentre en dissidence radiophonique, c'était donc Raphaël. Il y avait celle qui revient de loin et pas seulement politiquement, c'était notre alter réalisatrice Juliette. Il y avait aussi Cédric à nos côtés, celui qui peut ouvrir une canette de bière. Simplement grâce à la puissance de sa pensée matérialiste, Cédric. Ce soir, notre spécialiste du mouvement ouvrier japonais, c'était donc Guillaume Yaume. Et puis si le quart de rouge est la boisson du garde rouge, c'est aussi celle du camarade Gwen venu ce soir assurer la sécurité des locaux. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. D'ici là, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.